L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous, je suis en compagnie aujourd'hui de Monique Chabi-Serrault, qui représente l'association France-Palestine Solidarité, et de Kamal Mahmoud, qui lui est président de l'association Montpellier Solidarité, Montpellier-Palestine Solidarité Rurale. Mais avant de commencer justement à parler de ce qui nous intéresse, la venue d'un orchestre qui s'appelle le Quartet Galilée, je voudrais rendre hommage ici à un grand personnage de l'UNICEF international qui était dans l'Hérault, puisque c'est Paul-Louis Audat qui vient de décéder jeudi dernier. En ce moment, ses obsèques se déroulent à l'église de Ferrières-les-Verreries. Paul-Louis Audat était ancien haut fonctionnaire de l'UNICEF international, ancien directeur du comité français pour l'UNICEF, président honoraire du comité de l'Hérault pour l'UNICEF, et nous l'avons bien connu. Nous nous associons à ce deuil en tant que Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité internationale. En effet, Paul Audat avait été l'instigateur de l'adhésion de l'UNICEF Hérault dans cette maison. Et tant que sa santé le lui a permis, il a été présent aux manifestations diverses. Il a apporté au débat la richesse de sa longue expérience tournée vers l'avenir. Et il a encouragé les jeunes qui s'engageaient à l'UNICEF, notamment Stéphanie Delaine-Mirousse, qui a été la responsable de ce groupe pendant longtemps, l'a très bien connu et il l'a toujours encouragé vivement. Donc nous pensons à lui, nous pensons à ses proches et à tous ceux de l'UNICEF qui sont en deuil aujourd'hui. Alors bien sûr, nous sommes là pour vous parler de la venue du Quintet Galilée qui a été invité par l'association France-Palestine Solidarité qui fait une tournée en France.
Voilà, dans trois villes, Montpellier, Nantes et Nanterre. Alors, ce n'est pas un quintet, c'est un quartet.
Hein, c'est un quartet.
C'est un quartet, oui, qui est composé de trois frères et une sœur. Omar Saad est donc l'aîné. On les invite pour deux raisons. D'abord pour leur musique, bien sûr, mais surtout parce que ce sont des réfusniks, donc des objecteurs de conscience. Il faut savoir qu'en Israël, les druzes, parce que c'est la famille d'Omar est druze, les druzes ont une situation particulière par rapport aux autres arabes. Le druzisme, c'est une... Alors pour certains, c'est une religion, d'autres, c'est une secte qui est issue de l'islam, qui est née au XIe siècle. C'est une religion assez secrète, où il n'y a ni liturgie, ni il y a un imam caché. D'après les druzes, le Coran se lit de deux façons. Une façon exotérique et une façon ésotérique. Et donc, ils sont un peu à part par rapport aux musulmans, mais aussi par rapport aux Palestiniens, puisqu'ils font leur service militaire. Et en 1938, ils ont aidé les Juifs à combattre les Palestiniens. Depuis 1956, ils ont une formation et ils sont dans un bataillon qui s'appelle le bataillon Erev, qui est un bataillon de fantassins. Et 83% des druzes font donc leur service militaire. Donc la particularité des Saad, c'est que comme ils sont musiciens et qu'ils font partie d'un orchestre de Palestiniens, qu'ils font
des
tournées...
Parce qu'ils sont jeunes.
Oui.
Oui.
L'orchestre s'appelle Palestine Youth Orchestra, donc l'orchestre des jeunes Palestiniens. Ils ont fait une tournée l'année dernière en France qui était magnifique. Donc, leur particularité, c'est de passer leur temps avec des jeunes Palestiniens, d'aller en tournée avec eux, de tout partager avec eux, aussi bien les soirées en dortoir que les repas, que le reste. Donc pour eux, l'idée d'aller dans l'armée, de se retrouver en checkpoint, d'arrêter leurs frères, c'est quelque chose d'inadmissible. Donc ils ont refusé tout au moins pour l'instant, les deux aînés, puisque les autres ne sont pas encore en âge de faire leur service. Ils ont refusé de faire leur service et ils ont fait de la prison. Avec eux viendra une petite Israélienne de 19 ans, Tahir, qui elle aussi refuse de combattre contre les Palestiniens. Donc elle est juive.
Oui, il faudrait rappeler que la conscription est étendue aux femmes.
Exactement, oui. Là-bas, on fait le service qu'on soit un homme ou une femme. Donc, on les reçoit pendant 3 jours. Donc, ils arrivent dimanche. Lundi, on les reçoit à la Maison des Relations Internationales à 18h. Il y aura une exposition, la présentation et un pot. Le lendemain, il y aura un concert qui aura lieu à la salle Pétrarque à 20h. Et le lendemain, le mercredi, nous allons voir un film sur eux au Diagonale à 18h. Donc, ils seront présents, ils présenteront leur film. Et dans la journée, on va essayer de les accompagner. On attend une réponse du conservatoire parce qu'on voudrait que les jeunes musiciens d'ici puissent rencontrer les jeunes Palestiniens et éventuellement jouer avec eux. Donc, voilà pour l'essentiel.
Voilà, alors bien sûr, votre manifestation s'intitule Palestine Résistance.
C'est ça, oui, puisqu'ils résistent contre le service militaire, donc contre l'attaque de l'autre part du pays, quoi.
Alors, vous n'avez pas dit quel était leur répertoire. Donc, il faut insister peut-être là-dessus. Non, parce
ils ont un répertoire varié, aussi bien ce qu'on appelle le classique chez nous, c'est-à-dire aussi bien Beethoven, Dvorak ou autre que de la musique orientale. Donc, Omar, lui, il est altiste. Sa sœur, elle est violoncelliste. L'un de ses frères est également violoniste. Et puis, l'un d'eux joue également du oud.
Oui, c'est Mostafa.
Et la sœur chante également. Elle chante aussi bien du classique que de l'oriental. Et le père était musicien, déjà. Donc, ils ont été élevés très tôt dans une ambiance musicale.
Oui, ils ont tous été primés. Ils ont eu prix nombreux. Oui. Je vois que Omar, donc, il a été au conservatoire de musique Baïta Musica. Que Mostafa aussi a rejoint la formation Palestine Yahous Orchestra. Il en était le plus jeune.
Le jeune, je crois qu'il doit avoir une quinzaine d'années. Ça fait déjà plusieurs années qu'il joue. Le plus jeune d'entre eux.
Le plus jeune d'entre eux s'appelle Gandhi, d'ailleurs.
C'est un très beau prénom qui montre bien le côté paisible. Je pense que les parents l'ont appelé comme ça pour une raison tout à fait voulu.
Et ce jeune a déjà gagné une compétition, une compétition nationale palestinienne. Dans différentes catégories, il a été primé en 2010, 2012, 2014.
Et nous avons invité la petite Tahir Kaminer, c'est aussi pour montrer qu'il n'y avait pas que des druzes, mais aussi que certains des jeunes d'Israël refusent totalement de faire leur service militaire et aimeraient vivre en paix avec leurs voisins palestiniens.
Oui, c'est ce mouvement d'objection de conscience qu'il faut faire connaître, parce que ça prouve quand même qu'il y a aussi des jeunes.
Elle a quand même fait 170 jours de prison pour avoir refusé de porter des armes.
Et oui, on a présenté, je crois, Omar 7 fois.
7 fois en 7 mois.
En 7 mois, la possibilité, évidemment, de se racheter en disant qu'il voulait bien faire le service. Et il a toujours refusé. Il a refusé 7 fois. Alors, ça prouve, évidemment, une volonté très marquée de rester dans la paix avec ces jeunes.
Il préfère porter son alto qu'une arme.
Voilà.
Dit-il.
Alors, vous avez apporté de la musique pour qu'on entende justement cet ensemble.
Alors, pour l'instant, ils n'ont pas de disque, je crois, et je n'ai rien trouvé sur eux particulièrement, mais j'ai trouvé sur l'orchestre dont ils font partie. Donc, il y a un morceau classique et un morceau plus oriental. Donc, ce sont les deux morceaux qu'on va entendre l'un après l'autre.
Oui, d'abord l'un,
oui,
et après
ensuite,
nous reprendrons
bien sûr, mais
contact.
Après, et on terminera avec l'autre.
Voilà, on terminera avec l'autre.
Thank you.
Voilà, nous reprenons donc, nous avons parlé de ce quartet Galilée qui va venir bientôt à Montpellier, la semaine prochaine. Et ce quartet qui s'exprime par la musique et qui comprend justement beaucoup de Palestiniens, c'est aussi une manière de résister, de s'exprimer avec la musique. Mais pas seulement. Je lisais dernièrement dans un article qui a paru dans le dernier numéro de Gardarem Loularzac de septembre-octobre et qui est signé de Sonia Feyman, présidente de l'Association des Amis du Théâtre de la Liberté de Jénine, que toute cette manifestation culturelle, soit de théâtre, de cinéma, de musique et d'autres arts comme la sculpture, la peinture, faisait partie de cette résistance palestinienne. Et justement, elle citait l'exemple de l'ensemble musical Al-Kamandjati, qui a été créé à Jénine lors de la deuxième intifada, qui est venu souvent jouer en France d'ailleurs, et il s'est mis à jouer un jour que le groupe faisait la queue, qui dure des heures, au Chaïpont de Calandia. Et alors cet acte, elle dit, qui en d'autres lieux aurait ravi l'entourage, a agacé les soldats israéliens en faction, au point qu'ils se sont bouchés les oreilles avec leurs écouteurs, manifestant aussi, ainsi leur refus d'entendre la musique de la Palestine. Car les Israéliens en général, même s'il y a des exceptions, refuse de voir, d'entendre qu'il y a une autre réalité que la leur de l'autre côté du mur, alors, celle des Palestiniens.
Je vais faire une parenthèse, il y a quand même un orchestre fameux qui est composé de Palestiniens et de Juifs israéliens qui a été créé par Barenboim et Edouard Saïd.
Oui.
Alors au début ça a été très difficile, mais maintenant c'est un orchestre qui fait le tour du monde et où les musiciens des deux bords s'entendent comme frères, et donc c'est possible.
Voilà, c'est possible, mais ça montre que c'est un acte de résistance aussi, parce que c'est la culture d'un peuple qui s'exprime.
Naturellement. D'abord, le problème, c'est que le peuple israélien, apparemment, ne connaît pas ses voisins palestiniens.
Voilà, c'est ce qu'il disait, justement.
Et il y a une politique de blackout pratiquée par les différents gouvernements israéliens successifs. Et pour empêcher pratiquement leur population de faire connaissance avec les Palestiniens à côté, leurs voisins. Et c'est une façon de nier l'existence pratiquement du peuple palestinien. Comment faire? Alors, si les Palestiniens ne prennent pas les armes, eh bien, ils prennent la culture comme arme. Ils prennent leur patrimoine qu'il faut montrer au monde, parce qu'il y a un patrimoine, tous les peuples du monde ont un patrimoine. Et les Palestiniens utilisent donc le théâtre, les orchestres, toutes sortes, la musique et les pièces, les photographies de leur patrimoine pour montrer au monde qu'il y a un peuple qui a un passé, qui a une richesse à montrer et que tout le monde a intérêt à connaître. Et je me rappelle que parmi les théâtres qui connaissaient les Palestiniens, ça remonte à 1920, après la Première Guerre mondiale. C'était des théâtres créés par un ancien pédagogue, historien, qui s'appelle Khalil Sakakini, et qui était un des premiers à préparer les curriculums de cours de l'histoire et de littérature pour les Palestiniens. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois qu'il y a une incursion ou il y a un problème où les Israéliens devaient intervenir ou punir des Palestiniens, ils commençaient par détruire des centres culturels ou les théâtres, ou empêcher les activités théâtrales ou culturelles, les manifestations diverses qui ont eu lieu en Palestine. Et la même chose, actuellement il y a des centres culturels français à Gaza où il y a beaucoup d'intérêt exprimé par les Palestiniens de Gaza à ces activités. Ils participent tous par leur apport divers dans tous les domaines. Et c'est un acte qui est très courageux. Parce que les Palestiniens ne veulent pas baisser les bras en disant on est occupé ou sous l'occupation ou assiégé par l'armée israélienne, donc on ne fait rien. C'est faux. On continue à montrer à tout le monde qu'on existe, qu'on résiste et qu'on refuse cet état de fait en disant vous êtes sous l'occupation, donc on vous empêche de vous exprimer. On s'exprime comme on peut, mais on sera toujours là.
Oui, d'ailleurs, nous avions reçu...
Il ne faut pas oublier l'artisanat aussi, qui est très important.
Très important aussi, oui, pour les femmes qui ont des broderies magnifiques, que votre association, d'ailleurs, la FPS, permet de...
Oui, on en...
D'apprécier.
On en reçoit, on les fait connaître, oui, tout à fait. Oui,
l'artisanat, c'est une des richesses du peuple palestinien. D'abord, il y a la broderie qui vient qui est très diverse, d'une région à autre, entre le centre de la Palestine, le nord et le sud, il y a différentes broderies. Mais c'est toujours beau, très, très demandé. Il y a beaucoup d'exhibitions qui ont lieu en Europe pour la broderie palestinienne. Il y a aussi l'artisanat.
La poterie.
La poterie. Il y a aussi le bois d'olivier qui est travaillé et qui est répandu partout. Et il y a toutes sortes aussi de matériel qui arrive de la Palestine et qui est très apprécié, comme une sorte de céramique. Et ça, c'est apprécié aussi. Le travail qui est fait par des régions comme Hébron aussi est connu pour sa qualité de céramique, par exemple. Le nord de la Palestine est connu aussi par ses différents produits agricoles, le centre comme le sud, qui sont exportés à l'étranger, notamment l'huile d'olive pour la Palestine de la Cisjordanie et la région de Jéricho pour les dattes.
Voilà, on peut trouver ces produits à Artisans du Monde, par exemple.
Oui, aussi.
Voilà, qui diffuse aussi ce genre de produits. Alors, il y a aussi une manière de résister non violente. Nous avons parlé de Bilin souvent, de ce village qui résiste toutes les semaines.
Nabi Saleh
aussi. Eh oui. Mais aussi du boycott des investissements sanctions, c'est une manière de résister non violente. Vous aviez la journée nationale samedi dernier, justement.
Oui, qui consiste à aller dans les grandes surfaces pour voir quels sont les produits qui sont étiquetés Israël, alors qu'on sait que c'est la sueur des Palestiniens qui souvent est à l'origine de ces produits.
Et non seulement ça, mais ce sont des produits par les colonies. Donc, l'Union
Exactement.
Européenne a exigé qu'Israël étiquette les produits provenant exportés par Israël qui proviennent des colonies en Cisjordanie. Et donc Israël n'a jamais voulu étiqueter ces produits. Or, s'il y a une demande de boycott, c'est pour contre ces produits qui ne sont pas un produit israélien. C'est des produits fait en Palestine, sur la terre palestinienne et avec l'eau de la Palestine. Et c'est ça le boycott qui demande qu'il y ait un étiquetage pour qu'on sache...
Il ne faut pas tromper le consommateur.
Et quand on dit que BDS est illégal, pour moi, comment quelque chose qui dénonce une illégalité peut-elle être illégale? Je veux dire que le BDS est légal dans la mesure où ça dénonce justement... quelque chose qui est illégal.
D'ailleurs, le boycott, on peut rappeler le boycott des oranges qui avait eu lieu au moment où on dénonçait l'apartheid en Afrique du Sud et qui avait été soutenu par l'ONU. Donc, ce n'est pas un acte illégal de faire un boycott.
Mais le problème de BDS, c'est qu'on pense souvent au boycott. On oublie les deux autres lettres. C'est quand même désinvestissement. On a quand même réussi à ce qu'Orange, par exemple, sorte de son commerce avec Israël. Et puis, il y a S de sanctions. Or, malheureusement, on dénonce souvent, mais on sanctionne rarement.
Et oui, c'est ce que l'Union européenne devrait faire.
Tout à fait.
La politique de faiblesse de l'Union européenne démontre à quel point l'Europe est faible, c'est vrai. Car dénoncer simplement ne suffirait pas. Je me souviens une fois que, au Parlement européen, lorsqu'il y avait la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne qui condamnait de bout de lèvres la colonisation, il y avait Cohn-Bendit qui lui disait « Agissez, réveillez-vous ». Ne restez pas là à dénoncer debout de lèvres sans réagir. Il faut des sanctions. Il faut appliquer des sanctions économiques contre Israël. C'était ça ce qui est demandé à l'Union européenne. Or, l'Union européenne, apparemment, c'est encore sans vie parce que ce sont des pays qui n'ont pas une seule politique commune à adopter vis-à-vis de la situation en Palestine.
Et oui, et que pensez-vous en ce moment des hommages unanimes rendus à Shimon Peres?
Shimon Peres est un homme qui a fait la paix avec Rabin en 1993 avec les Palestiniens. On l'a vu avec, à la Maison Blanche avec Yasser Arafat, et ils se sont serrés les mains, et Bill Clinton au milieu. Donc c'était une lueur d'espoir que tous les Palestiniens, tout le monde avait apprécié.
À ce moment-là, on y a cru.
On y a cru en disant, ça y est, enfin, on va connaître la paix, on va voir une fin à ces hostilités entre Palestiniens et Israéliens. Et malheureusement, après l'assassinat de Rabin, et c'est Shimon Peres qui a commencé après à encourager la colonisation en Palestine, que c'était même en Cisjordanie et à Gaza et à Jérusalem-Est. Et ça, c'était une politique qui était contraire aux espoirs de paix pour lesquels ils ont obtenu le prix Nobel de la paix, d'une part. D'autre part, sa façon de n'oublions pas que c'est lui qui a négocié et réussi à introduire une centrale nucléaire en Israël en négociant
avec l'aide de la France.
Bon, il a aussi à son solde l'agression contre le camp de Cana des Nations Unies qui était au sud du Liban en 1996, je crois, au début de 1996, où il y avait une centaine de morts qui ont eu lieu et qui apparemment, d'après les Nations Unies, avaient été délibérément bombardés. Donc, je ne sais pas, c'est un homme qui avait tous les moyens d'aller dans la paix jusqu'au bout, mais apparemment, par une certaine faiblesse, ou par une volonté aussi d'augmenter la colonisation, il a préparé le terrain à un dégouvernement d'extrême droite en Israël.
Eh bien, merci. On va écouter alors la deuxième musique que vous avez apportée du quartet.
Donc voilà, qui est donc plus orientale cette fois.
Bon, ça donne envie d'aller, bien sûr, écouter ce quartet. Alors, je rappelle que cette manifestation est inaugurée à la Maison des Relations Internationales le lundi 10 octobre à 18h.
Mm-hmm. Donc, sur l'esplanade.
Venez inaugurer avec ces jeunes musiciens cette manifestation. Et mardi 11 octobre, c'est le concert à la salle Pétrarque à 20h. Donc, musique occidentale et orientale. Et puis, ce qui est très important, le mercredi 12 octobre, un film débat sur l'objection de conscience.
Et sur particulièrement sur le quartet, oui.
Sur le quartet. Alors, c'est un film sur le quatuor.
C'est un documentaire sur eux, oui.
Voilà, documentaire sur eux, mercredi 12 octobre à 18h au cinéma Diagonal. Alors, termine avec le calendrier, il y a beaucoup de choses. Eh bien déjà, depuis aujourd'hui jusqu'à samedi 8 octobre, à la Maison pour tous, l'Escoutaille, à 67 rue des Rasteurs à Montpellier, vous êtes invité à visiter la grande exposition du Secours populaire français, Ici et là-bas, projet à l'international, où on traitera de l'accès à l'eau, du changement et du dérèglement climatique, de l'accès à l'alimentation, de l'accès à l'éducation, à la santé. Le lundi 3, donc aujourd'hui à 18h, c'est l'inauguration et l'apéro. Mercredi 5, c'est réservé à l'accueil des enfants de 14 à 18h, avec des activités éducatives et ludiques. Et vendredi 7, a lieu un repas avec musique, donc à partir de 18h. Samedi, une braderie de 9h à 17h30. Enfin, le dimanche 9 octobre, c'est le team UNICEF World Run. Vous pouvez rejoindre la plus grande course solidaire et mondiale sur www.teamunicefworldrun.org. À l'heure de votre choix, courez 10 km où vous voulez, connecté grâce à votre application de running. Relever des défis, gagner des récompenses, voyez tout cela donc sur le site de l'UNICEF, UNICEF World Run. Et puis, je vous invite aussi à une rencontre à Montpellier au Club de la Presse le samedi 8 octobre de 15h à 18h, Regard critique sur le printemps arabe. C'est une rencontre organisée à l'occasion de la parution du numéro 74 de la revue universitaire Horizon Maghrébin. Cette revue, de ce numéro, est intitulée Itinéraire arabe en révolution 2011-2014.
C'est avec Mahati Monjib, journaliste qui est menacé de prison, avec 6 autres journalistes marocains.
Marocains, voilà. Mahati Monjib,
qui
a été montpelliérain assez longtemps.
Oui, qui a fait ses études ici.
Alors, Paul Aliès est professeur émérite de sciences politiques à l'Université de Montpellier. Également, il y aura Abdallah Gabsi, enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse. Et puis, la rencontre est animée par le directeur de la revue, Mohamed Abid Samra Kandi.
C'est Regard, c'est quoi la revue? Regard sur le monde arabe?
Horizon Maghrébin.
Horizon Maghrébin.
La revue s'appelle Horizon Maghrébin. C'est une revue universitaire.
C'est initié par Jean-Louis Roumégas.
Ah oui, c'est bien ça. Courageux.
Voilà, donc vous pouvez contacter au 05 61 50 47 95.
Répétez, 01
05 61 50 47 95. Alors, je rappelle que Mahati Monjib a été animateur d'un groupe de défense des droits de l'homme au Maroc et à Montpellier, et qu'il a participé aux activités de la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale, ainsi que son épouse Christiane Dardé. Pour beaucoup d'entre nous, nous les avons bien connus et nous avons participé justement à l'action
de 15h à 18h au Club de la Presse.
Au Club de la Presse, 15h à 18h, samedi 8 octobre.
Okay.
Merci à vous. À bientôt, chers auditeurs.
Merci. Bonne journée.